En 2017 et 2018, Alpes Solidaires a mené sur le quartier Les Essarts sur UA et Chirol une étude sur le rôle et la place de l'économie sociale et solidaire. Pour poursuivre cette démarche, Alpes Solidaires et la Voix des gens ont souhaité donner la parole aux associations et acteurs de ces quartiers. Pour ce deuxième épisode, nous sommes allés au centre d'hébergement et d'insertion sociale des Chirol. Nous y avons rencontré Nathalie Blanc du Relais aux Anam. Elle nous parle de l'accompagnement de familles et de personnes en grande précarité sociale.
Donc l'association, on doit être à peu près une cinquantaine de salariés et cette association gère une dizaine de services différents implantés sur l'agglomération grenobloise et dans le Voironnais principalement, et dont l'objectif principal c'est d'accompagner et héberger des personnes en précarité sociale. Voilà, ça c'est le dénominateur commun à tous les services. Ici, vous êtes au siège de l'association, mais ici, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. C'est-à-dire que nous accueillons des familles, des couples avec ou sans enfants et des familles monoparentales. Nous les accueillons dans des appartements, principalement ici dans ce bâtiment, au 1 allée de Gâtinais, mais également en appartements diffus, dont la plupart sont aussi sur le quartier. Allée du Gâtinais, Place Beaumarchais, Allée du Berry, voilà. Donc on est vraiment des appartements à proximité. On accueille donc des familles qui cumulent des difficultés sociales, qui n'ont pas qu'un problème de toit sur la tête, mais en plus de la problématique d'absence de toit, elles ont rencontré, au vu de leur parcours, d'autres difficultés qui font frein à une autonomie de vie dans du logement de droit commun. Donc ces familles, elles sont ici sur une période de 6 mois, renouvelable, et la loi dit autant que nécessaire. Donc en fait, on est sur des durées de séjour qui sont quand même assez longues, puisque aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 2 ans de séjour, voilà, pour de moyenne. Ces familles, elles sont très hétérogènes dans les difficultés qu'elles rencontrent. Donc on a des jeunes couples qui font leur première expérience de vie de couple et de parents en même temps dans notre établissement. On a des personnes victimes de violences, des personnes qui ont été expulsées une fois, deux fois, trois fois de logement. On a des personnes qui sont arrivées sur le territoire français depuis très peu de temps et qui n'ont pas tous les droits sociaux potentiels pour vivre dans un logement de droit commun. Donc voilà, cohabitent ici plein de gens avec des problématiques différentes, des histoires différentes, des parcours différents et du coup des besoins et des demandes différentes. Donc ils sont accompagnés dans ces besoins par une équipe de travailleurs sociaux qui est composée de 7 éducateurs. Il y a également une infirmière à quart de temps, une psychologue à quart de temps et nous avons un travailleur père à mi-temps qui est plus en charge de l'accompagnement, en tout cas d'être disponible et à l'écoute des jeunes ados et des jeunes majeurs qui vivent ici avec leurs parents. L'équipe, elle est complétée également par 4 veilleurs de nuit qui ont la spécificité de travailler la nuit comme le nom l'indique, mais qui travaillent aussi en journée sur les temps de week-end. Donc c'est des collègues qui sont aussi qui font partie de l'accompagnement qui est proposé aux familles. Ces accompagnements, ils sont individualisés, bien entendu. Chaque famille ayant des besoins particuliers, on cale l'accompagnement en fonction des besoins. On va dire que 99% des familles qui ont été hébergées au Relais aux Anam vont vers du logement de droit commun au bout d'un certain temps. Voilà. Et on espère qu'elles s'y maintiennent. En tout cas, on a des passages réguliers d'anciens résidents qui nous témoignent du fait qu'ils sont toujours dans le logement dans lequel ils ont été relogés à l'issue de leur séjour en CHRS. C'est-à-dire que c'est des familles qui ont qui n'ont pas de famille à proximité ou avec des relations tendues, peu d'amis, un réseau amical vraiment réduit. Et le fait de venir ici, ça amène une sécurité déjà, qui a pas forcément à l'extérieur. Et puis le travail de l'équipe éducative, ça va être aussi de valoriser les compétences de chacun, les savoir-faire de chacun, et déjà d'amener de la rassurance aussi en assurant un confort matériel minimum, hein, des ressources, des droits ouverts, une stabilité sociale et financière à minima. Et à partir de là, aider à construire, à avoir une image un peu plus positive, trouver des centres d'intérêt communs avec ses enfants, trouver du plaisir à partager des temps avec ses enfants et pas que de la contrainte d'organisation. Donc c'est aussi travailler sur l'estime de soi et c'est ça qui est vraiment porteur au niveau du travail éducatif qui est fait ici. Et à partir de là, du coup, d'avoir la ressource et la possibilité d'aller, de s'ouvrir sur l'extérieur, d'aller vers l'emploi, d'aller participer à des activités à la maison des habitants. Et voilà. Donc on est toujours entre le dedans et le dehors. C'est souvent un débat en équipe. C'est qu'est-ce qu'on propose nous et comment on utilise l'extérieur et comment on accompagne de l'intérieur à l'extérieur. Voilà, c'est toujours ces questions-là qui sont débattues. Parce que les personnes qu'on accompagne, elles n'en sont pas toutes au même niveau. Mais quand même, globalement, ce qui est dit, certains le vivent comme vraiment lourd, hein, d'être dans une structure un peu collective comme ça, mais d'autres, ça leur permet de créer des liens, des relations qu'elles vont ou pas garder à l'issue de leur séjour. Et du coup, il y a des petites amitiés qui se créent et ça, c'est plutôt sympa aussi. Pas pour tous, mais pour certains, le fait qu'on soit encore un foyer, c'est-à-dire qu'il y a une vie collective qui soit proposée, ça rassure, ça amène de la confiance en soi, ça permet, c'est tout le travail qu'on fait pour ensuite pouvoir aller un petit peu plus sur l'extérieur, s'ouvrir sur l'extérieur plus facilement. Il y a une rassurance, la présence la nuit, parce qu'on est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Et par exemple, il y a des dames qui ont vécu des violences conjugales ou pas, mais en tout cas, d'être ici, c'est rassurant. Il y a quelqu'un, on sait que les portes elles sont fermées à 22 heures, les résidents peuvent rentrer et sortir comme ils veulent, il n'y a pas de souci. Mais les visiteurs, sauf s'ils ont une autorisation, on a accepté leur présence ici, mais sinon, ils ne peuvent pas rentrer et sortir comme ils veulent. Il ne peut pas y avoir des visiteurs au milieu de la nuit. Voilà, donc ça, c'est cette notion un peu de foyer, ça peut être très rassurant aussi, en termes d'environnement. L'association elle est arrivée sur le quartier à peu près au moment des Jeux Olympiques et on a été le premier bâtiment à être construit ici sur ce qui est aujourd'hui la Villeneuve des Chirolles. Donc on était un peu tout seul. Il y avait le 1 Gâtinais et le prolongement du 1 Gâtinais qui sont le 3 et 3 bis, qui sont aujourd'hui des logements SDH. En fait, initialement, c'était un seul bâtiment qui accueillait, c'était une cité de transit, et qui accueillait des familles qui venaient sans doute, je pense, plutôt pour de l'emploi, qui venaient d'autres régions de France, parce qu'ils avaient trouvé du travail sur l'agglomération grenobloise, et qui avaient besoin d'être logés provisoirement avant de trouver leur propre logement. C'est un peu l'historique de l'association. qui en 1974 est devenu centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ce qui lui a donné un statut particulier et qui a recentré sur ses habitants des personnes qui avaient des difficultés sociales et qui avaient besoin du coup d'un accompagnement un peu spécifique. De par le public qu'on accueille, on a été un peu isolé. Voilà, et souvent un peu stigmatisé aussi dans le quartier. Dès qu'il y avait un souci, c'est les gens du foyer, c'est le foyer. Voilà. En sachant qu'à proximité, il y a d'autres foyers aussi. Hein, sur le même quartier, il y a Doma qui n'est pas loin, il y a l'étape aussi qui n'est pas loin. Donc c'est un peu les gens du foyer et le restant du quartier. Avec parfois un peu des accrochages avec les unions de quartier, enfin, c'était pas très simple. Ça tend un petit peu à changer. Et c'est un peu la volonté qu'on a au niveau du centre d'hébergement. C'est vraiment d'ouvrir le centre d'hébergement à la cité. Alors, dans les deux sens. De parler des personnes en situation de précarité, de faire tomber des représentations, de faire en sorte qu'ils soient plus pris en compte dans le cadre des politiques publiques. Ils peuvent amener aussi la pierre à l'édifice dans la vie de quartier, de ce qui s'y passe. Leurs enfants fréquentent les écoles de quartier, ils peuvent accompagner les sorties scolaires. Enfin, ils sont des résidents comme tout le monde. Donc, on s'est rapproché de certaines unions de quartier. On essaye de travailler très, très en lien avec la maison des habitants. Par exemple, avant, on faisait que des sorties qu'on organisait, nous, pour les familles du centre d'hébergement. Maintenant, à chaque fois, on se réfère aussi au programme que propose la Maison des habitants et on essaye, c'est pas toujours simple, mais d'accompagner des familles hébergées ici à participer au temps collectif, aux sorties qui sont proposées par la Maison des habitants. On a aussi ouvert nos portes. Ici, on a une collègue, par exemple, qui fait des cours de français, initialement qui était un peu prévu pour les gens qu'on accueille, mais finalement qui est ouvert au quartier. Donc on a des gens du quartier qui viennent, des gens d'autres quartiers qui viennent aussi. Et cette collègue, on a une convention avec la Maison des habitants, et sur une autre demi-journée, elle va à la Maison des habitants faire des cours de français, où certains résidents ici du centre d'hébergement vont aussi là-bas. Voilà, ça permet une perméabilité entre ce qui se passe ici dans les murs et ce qui se passe dehors. Pareil, on essaye de participer le plus possible et de faire participer les résidents à des festivités, que ce soit Beaumarchais-Plage, que ce soit des temps de carnaval ou autre. On essaye d'être présent. Pour nous, ça permet donc de faire tomber des représentations. Ça permet aussi aux personnes qu'on accueille d'avoir aussi une autre vision de ce que c'est qu'un quartier en zone sensible, dit sensible. Parce que finalement, au vu de la réalité du logement social sur l'agglomération grenobloise, il y a de fortes probabilités qu'à l'issue de leur séjour ici, ils soient également dans un quartier QPV ou en tout cas sur des zones plutôt de quartier. Et parfois, ça peut faire peur, l'image qu'on en a n'est pas forcément positive. Et ça leur permet à eux aussi d'envisager autrement la possibilité d'être logés sur ces quartiers. Parce que quand on le vit de l'intérieur, on n'en a pas la même représentation non plus. Voilà. Donc, et au final, on a des personnes qui résident ici et qui aimeraient bien être logées sur le quartier finalement, qui demandent à être logées sur le quartier. Bon, je pense que le fait qu'on soit pas loin, c'est aussi rassurant pour eux. Ils savent qu'ils peuvent revenir s'ils ont besoin, ne serait-ce que pour discuter un moment. Mais en tout cas, je pense que ça fait aussi tomber des représentations dans ce sens-là. D'une façon plus générale, au niveau de la ville aussi, on essaye de s'impliquer dans des projets plus larges pour parler un peu différemment du centre d'hébergement et pour amener les familles qu'on héberge à participer au même titre que les autres. Alors avec plus ou moins de succès, hein, c'est pas toujours simple, mais le frein vient pas forcément des partenaires d'ailleurs. Des fois, c'est même les familles qu'on accueille qui ont un peu peur aussi d'aller sur l'extérieur. Donc ça, c'est notre job, hein, c'est de les amener ensuite à avoir un peu plus confiance et être moins craintive de l'extérieur. Pareil, dans les appartements diffus qu'on avait, systématiquement, quand il y avait un problème dans la montée, on avait un coup de fil dans l'heure qui suivait C'est la famille que vous avez mis là qui pose des problèmes. Moi, je trouve, ça fait maintenant 10 ans que je travaille ici, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on a de moins en moins. Comme si les familles qui habitent dans une montée lambda, bah, finalement, elles sont moins repérées comme étant une famille de foyer. Voilà, je pense qu'en effet, il y a une amélioration par rapport à tout ça. Un regard qui change. Voilà, on a pu aussi avoir des temps festifs ici, qu'on a ouverts. On a fait une journée porte ouverte, l'union de quartier était invitée, tous les partenaires étaient invités. Et ça, on a pu faire visiter des appartements. Les gens du quartier qui sont venus étaient très, très étonnés. Ils ne pensaient pas que c'était des appartements. C'est l'image foyer très collectif, où on mange ensemble, où on vit ensemble, ce qui existe quasiment plus, ce type de foyer. Donc c'est aussi faire casser ces représentations-là, je pense que c'est important. Les visites sont libres ici, les gens peuvent entrer et sortir. Ça nous a amené quelques déconvenues avec des jeunes du quartier qui repéraient des personnes fragiles ici, qui trouvaient que nous sommes dans un bâtiment à l'entrée du quartier. Donc c'est un bel endroit pour faire un peu de vigie, de surveillance, de tout ce qui se passe dans le quartier. Ça a eu donné lieu à des moments un peu tendus, un peu forts avec certains jeunes du quartier, mais je pense que le fait d'échanger avec eux, de communiquer sur qui on était, ce qu'on faisait, c'était quoi notre boulot, certains étaient étonnés. S'imaginait pas qu'on faisait ce travail et que les familles n'avaient pas bien compris qui était hébergé ici. Voilà, donc bon, ça a été dur, hein. Ça a été une période très très difficile. Mais je pense que globalement, on les salue, ils nous connaissent. On est repérés comme étant du quartier et on est intégrés dans le quartier aujourd'hui. Pour le centre d'hébergement, les changements qu'il peut y avoir à court terme, c'est au niveau du gouvernement. Il relance quelque chose qui a déjà été initié il y a pas mal de temps et qui a sa logique, hein, c'est ce qu'on appelle le logement d'abord. Donc l'idée, c'est que le recours à l'hébergement ne puisse se faire que dans un deuxième temps, si vraiment l'accès au logement est rendu impossible. Donc c'est privilégier l'accès au logement et éventuellement proposer les accompagnements nécessaires, mais dans le logement. Donc ce qui est intéressant, hein, puisque les personnes ne sont pas déracinées, elles vont s'inscrire vraiment dans une vie de quartier, elles vont repérer toutes les infrastructures du quartier et y demeurer, plutôt que d'aller dans un lieu d'hébergement et devoir le quitter pour reconstruire des choses ailleurs. Donc tout ça, c'est vraiment très positif et intéressant. Donc voilà, cette politique du logement d'abord, qui est aussi portée par l'association de façon volontaire. On a un service qui s'appelle Totem, qui accompagne des grands exclus directement dans des logements, ce qui pourrait paraître surprenant, mais ça fonctionne très bien. Peut-être qu'on va être amené à le développer un petit peu plus. Mais du coup, moi, j'avais quand même idée que même si on est sur cette logique de capter des logements, d'accompagner les personnes directement dans leur logement, quand même avoir un lieu un peu ressource, un lieu un peu centralisateur, ça demeure, ça reste. Donc peut-être qu'à terme, on pourrait avoir un établissement ici un peu plus petit, où certains appartements ici soient donnés à attribution à d'autres personnes, faire un immeuble plus lambda, et par contre accompagner des familles dans un rayon proche, donc qui pourrait rester le quartier, les accompagner directement dans leur logement. Voilà, on peut imaginer une structure d'hébergement un petit peu avec une configuration différente.